Et ma vie est rivée
à un sac de sucre.
J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré
pour un sac de sucre.
Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée
à un sac de sucre.
Où va le fruit de mon labeur, la douleur de mes bras et mes lombaires, la lourdeur de mes jambes et toutes ces longues heures à ratiboiser la canne pour battre ma misère. Et les blancs sont aisés, malins et rusés, ont belle maison et timoun scolarisé, soi-disant qu'il ne faut rien leur refuser. Moi j'ai la peau sur les os, sous une chemise usée. J'ai ailé les voisins, rassemblé mon réseau. J'ai sorti mon coutelas, aiguisé mes ciseaux et pris la décision sans trouble ni confusion de baptiser le béquet d'une belle incision. Malfaisant, insolent sur son trône installé, estimant comme son bien des terres qu'il a volées. Son destin sera le mien, dès qu'il sera esselé, il va entendre, comprendre et il pourra bien gueuler. Je laverai l'affront, je vengerai l'Afrique, les fonds de cale et le travail forcé à coups triques. Et si le rhum et l'argent coulent à flot, c'est que j'ai un sac qui pèse un massacre.
Des personnes qui écrivent des livres de toutes les disciplines sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du fictionnaire. Le fictionnaire est le démocrate de la fiction. Des interviews longues des de interviews créateurs longues de créateurs sur support écrit dans les disciplines des sciences humaines, de Pierre Guyotat à Bruno Latour. Le fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur, mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du fictionnaire.
Bonsoir Karl. Vendredi soir de cette semaine, il y aura Camille de Toledo à la librairie Les Temps Modernes. À 18h30, je vous en parle parce qu'il est invité là grâce à la revue Les Temps qui restent et à son comité orléanais. J'animerai la rencontre. Camille de Toledo, c'est une figure du mouvement pour donner des droits aux écosystèmes et on le reçoit avec la librairie, dans la librairie Les Temps modernes, pour son nouveau livre qui paraîtra la veille, donc qui va paraître d'ici la fin de la semaine, qui s'appelle L'International des rivières, un petit livre jaune aux éditions Verdier qui ne coûte que 10 €, et avec, vous allez avoir les perspectives, vous allez pouvoir voir l'avenir des perspectives qu'offrent les droits de la nature, et particulièrement cet International des rivières, et peut-être à partir du fleuve Loire, comment doter Loire de droits, comment la doter d'une responsabilité peut-être à l'égal d'une entreprise privée et en faire une entité autonome et surtout une entité légale. Ça sera à la librairie Les Temps Modernes vendredi soir à 18h30. Nous vous y invitons tous. Karl, ce soir, une interview qui n'est pas très très loin de Camille de Toledo finalement. Alexandra Arène pour ce livre « Gaïagraphie, carnet d'exploration » de la zone critique. Vous l'avez compris, ça va nous parler de Gaïa, donc de la Terre, à l'heure de la catastrophe bioclimatique. Gaïagraphie, c'est une immersion dans les sciences de la Terre et dans les sciences du système Terre, et notamment les sciences de la zone critique, propre au grand scientifique Jérôme Gaillardet. Ça a pour vocation de nous faire redécouvrir des paysages que nous pensons familiers, mais dont nous avons en réalité très peu connaissance. Et cet ouvrage mêle carnet d'exploration, récit de découverte, interlude théorique et méthodologique et surtout des représentations cartographiques afin de constituer un nouvel outil de visualisation de cette fameuse zone critique. Et vous allez faire connaissance avec la zone critique. En fait, vous le savez intuitivement ce qu'est cette zone critique. C'est cette pellicule habitable de la Terre particulièrement surveillée par les sciences de l'environnement. Et oui, Karl, là où nous habitons, notre sol, notre sous-sol, là où il y a encore un peu d'eau et notre air, cette fine pellicule, c'est celle que nous habitons. Et ça s'appelle la zone critique. Et Gaïagraphie d'Alexandra Arène, c'est le livre qui nous permet d'avoir une représentation beaucoup plus juste, une représentation beaucoup plus juste scientifiquement de notre zone critique que nous habitons. Alexandra Arène, c'est une architecte qui a suivi très attentivement les enseignements de Bruno Latour. Et elle a été co-autrice avec Frédéric Aïtouati et Alexel Grégoire de ce beau livre Terra Forma en 2019 aux mêmes éditions B49, c'est B42 plutôt. Et c'est ce projet-là de donner une représentation juste scientifiquement de notre planète que nous habitons, cette zone critique. Karl, qu'allons-nous écouter ?
dis donc, j'ai un peu la pression, moi. C'est vrai qu'on n'entendait pas beaucoup Romain avant. On m'entend moins que toi.
Eh ben, faut augmenter le son de ton micro.
C'est ce que je vais faire. Tiens, prends ça.
Ah, c'est mieux. Ah, c'est agréable.
Oui, c'est mieux. Du coup, on va faire un petit pont avec l'émission d'avant. J'ai pas fait exprès, mais on va diffuser un morceau extrait du deuxième album de Petra Piedbiche. C'est une française. C'est une musicienne. Elle chante, elle rappe, elle fait plein de choses. Elle joue de la batterie. Vous allez vous en rendre compte dans ce morceau. Et elle parle de son quotidien de femme noire. Voilà. Allez, on écoute ça.
Vous êtes bien à l'émission du Fictionnaire. Radio Campus Orléans.
Le mot nègre, c'est pas raciste. C'est pour les noirs qui vivent en Afrique, pas comme toi. Au sujet des comportements racistes, on fera ce qu'on peut, mais bon, on va pas s'excuser d'être blanche non plus, hein. Ça c'est des endives, t'as déjà mangé ça chez toi? Ça c'est un pamplemousse, t'as déjà mangé ça chez toi? Ça c'est des bananes,
ça tu connais, hein.
Tu travailles bien, c'est inespéré. Déjà que t'es une femme, mais en plus d'habitude, les noirs sont vachement plus lents et mous. Quand y en a plus, y en a encore. Quand y en a plus, y en a encore. Quand y en a plus, y en a encore. Quand y en a plus, y en a encore. Y a pas de raison qu'il y ait des comportements racistes, hein, on est entre nous. Mais au cas où, c'est bon, on te protégera. Te fais pas dîner noir pour ça. Hein. Je rigole. Je rigole. Allô, oui, bonjour. On recherche une batteuse noire qui accepte de jouer gratuitement. C'est ok pour toi?
C'est ok pour toi? Je veux dire pour vous.
On a reçu la directive de ne pas remplacer les cartes d'identité perdues par des personnes. Enfin, par les personnes. Déclarez plutôt un vol, madame. Sinon, ça va pas marcher à la préfecture. Hein. C'est pour lutter contre la circulation des faux papiers. Je suis pas raciste, tu sais, hein.
Je suis pas raciste.
Je suis noire à l'intérieur.
Je suis noire à l'intérieur.
Je peux toucher tes cheveux?
Oh oui!
Je peux toucher tes cheveux? Je peux toucher tes cheveux, je peux toucher tes cheveux. Est-ce que je peux... Oh, c'est doux, hein. Est-ce que je peux toucher tes cheveux, ça te dérange pas?
Ils ont l'air doux.
Que je te touche les cheveux?
Je te connais pas, mais
est-ce que t'es excisé? Et puis t'es de quelle origine sinon?
Mais sinon, tu viens d'où? T'es de quelle origine?
T'es excisée ou pas? Oh. Et tu viens d'où sinon? Tu viens d'où en fait?
Je suis en compagnie d'Alexandra Rennes. Nous parlons de Gaïagraphie, carnet d'exploration de la zone critique, qui est paru il y a un an, en 2025, aux éditions B42. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Pendant cet entretien, nous allons essayer de faire saisir, de faire comprendre, de faire connaître cette phrase qui pourrait être le programme du livre. Je te cite « La Gaïagraphie vise à générer des cartes depuis l'intérieur de la zone critique. Cela nécessite une immersion dans les observatoires pour établir ces cartes d'un monde constitué de multiples entités interagissant de façon à mieux répondre aux défis du nouveau régime climatique qui nous demande de prendre en compte des phénomènes instables et des êtres jusque-là assignés à un statut de nature-objet. » Cette phrase, elle n'est pas forcément évidente à saisir, mais nous avons un peu de temps pour mieux la faire comprendre. Et pour cela, il va nous falloir suivre ces scientifiques dans ces observatoires de la zone critique. Et tu écris, Alexandra, « J'ai entendu de nombreuses histoires sur le comportement inattendu de diverses entités. À chaque fois, ces histoires naissent sur le terrain à partir d'un instrument. Partons donc sur le terrain. »
Donc, en effet, le livre, il a comme postulat qu'il faut en fait se rendre sur le terrain, au contact des sols, au contact de la zone critique, de l'air, de l'eau, pour essayer de comprendre ces entités naturelles. Donc, c'est quoi déjà un observatoire ? C'est quoi un observatoire de la zone critique ? Donc, c'est un lieu, une portion de paysage, un territoire qui est instrumenté. Instrumenté avec des capteurs qu'on va les déplier ensemble, qui sont en fait des instruments que les scientifiques placent dans ces paysages pour essayer de comprendre les perturbations environnementales qui sont subies en fait dans ces paysages, souvent liées à des perturbations humaines. Des activités qui a pu soit changer la biogéochimie d'une forêt, soit perturber les sols, soit polluer certaines eaux. Donc pourquoi en fait aller dans ces observatoires ? Ça vient aussi d'une question un peu antérieure. Donc moi je suis architecte, j'ai longtemps travaillé, enfin je travaille aussi encore sur des projets d'aménagement du territoire, et souvent on arrive en fin de parcours. Quand en fait on doit restaurer, renaturer, quand il y a déjà eu un problème en fait, et on essaie de venir solutionner les choses. Et il me semblait qu'on atteignait aussi un plafond de verre, c'est qu'en fait on peut pas tout réhabiliter. Et en fait, je voulais m'intéresser aussi aux causes de ça, aux causes de l'Anthropocène. Donc j'ai connu ce réseau de sciences qui avait les mêmes problématiques finalement que moi. En fait, il y a une espèce de symétrie entre notre pratique d'architecte, aller sur le terrain aussi, comprendre les sites, et puis leur pratique scientifique d'aller aussi sur les terrains, mais de façon beaucoup plus poussée, puisqu'on a ces instruments, ces capteurs pour nous indiquer, pour nous faire comprendre certains phénomènes. Donc ça, c'était un peu le début. Donc j'ai eu la chance de rencontrer ce réseau de sciences grâce aussi à Bruno Latour, qui m'a introduit et qui a commencé en fait aussi l'enquête. Donc voilà, mon projet aussi, c'était de poursuivre cette enquête, mais en ayant peut-être une focale aussi un peu plus architecte ou paysage. On peut aussi parler d'architecture du paysage. Ces observatoires, ils sont disséminés un peu partout en France, dans le monde aussi, il y a plusieurs réseaux. Je pense que Jérôme Gaillardet peut-être a pu en parler. Bon, il en parle beaucoup dans son livre, La Terre Habitable, qui recense aussi tout ce qui est étudié dans ces observatoires. Mais moi, mon approche, c'était vraiment d'aller explorer. Explorer parce que, en fait, je ne suis pas scientifique moi-même. J'ai dû me familiariser avec différents concepts, entre différents sciences et phénomènes. Et donc c'est une exploration parce que aussi j'ai suivi ces scientifiques un peu au gré de leur pérégrination, au gré de ben tel observatoire là il va y avoir une campagne de récolte de mesures, donc m'ont proposé d'y aller. Donc voilà, j'y allais aussi en fonction des opportunités. Et exploration aussi parce que finalement on pense connaître certaines choses du paysage, enfin en tant que voilà en architecte aussi on est formé à reconnaître certains patterns, certains motifs, qu'est-ce que peut être un sol, qu'est-ce que peut être un paysage, mais souvent plutôt comme un décor, une espèce de contexte qu'on va prendre en compte bien sûr, mais qui n'est pas tant que ça agissant sur la façon dont on va ensuite s'inscrire dedans. Et donc la façon dont ces scientifiques et qui sont aussi des personnes humaines hein, et puis leur capteur nous plonge finalement dans ce que peut être un sol ou de l'eau ou de l'air change complètement notre perception et ensuite potentiellement nos actions dans lesquelles on va inscrire toute forme de prise de position politique comme d'aménagement du territoire.
Alors tu as dit le mot magique, enquête, qui t'a permis d'explorer cette zone critique avec ces scientifiques, et peut-être qu'on peut partir d'un laboratoire, c'est-à-dire d'une zone qui est instrumentée directement, notamment le bassin de Strenbach. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et donc, d'explorer avec ces scientifiques-là cette zone-là qui est instrumentée, ça va te permettre après de dresser une carte du cycle de l'eau de ce bassin. Mais avant de parler de la carte que tu as faite, j'aimerais que tu nous parles de ce site-là. C'était quoi? Ça ressemblait à quoi? C'est quoi ton ressenti? Tu en parles longuement dans ton livre Gaïagraphie.
Oui. Alors j'en parle effectivement longuement parce que c'est un des observatoires où j'ai eu le plus de possibilités d'y aller. C'est aussi, juste un aparté, le site qu'on a essayé de reproduire dans une exposition qui a lieu au ZKM, c'est le Centre d'art et médias à Karlsruhe en Allemagne, lors de l'exposition Critical Zone, j'ai un trou de mémoire, mais c'était 2020-2022, curaté par Bruno Latour et Peter Debel. Et donc, c'est cet observatoire qu'on avait reproduit dans l'atrium du musée. Mais c'était une aparté. Donc, cet observatoire, il est situé dans les Vosges. Il est instrumenté par l'OGHE de Strasbourg. Et la problématique initiale, c'était répondre à la pluie acide. En fait, et au dépérissement de la forêt, donc qui était causé par l'apport de sulfure des industries européennes d'abord. Donc ce problème a été pris en charge finalement aussi par les politiques dans les années 80, donc ce qui a permis de résoudre une partie du problème, mais qui continue en fait parce qu'on a toujours des pluies acides, il y a d'autres industries émettrices de ce type de soufre dans l'atmosphère qui va retomber en fait en pluie acide ici. Il y a aussi le problème de l'industrie du bois qui replante certaines espèces d'arbres qui acidifient les sols, les épicéas. Et puis le problème de réchauffement climatique qui entraîne en fait une recrudescence, un rythme de vie accéléré d'un parasite qui va manger l'écorce en fait des arbres, qui va causer leur dépérissement. Et puis bien sûr les tempêtes qui sont aussi de plus en plus virulentes sur ce massif des Vosges. Donc tout un tas de problématiques. Et donc dans cet observatoire, ce qui est intéressant, c'est qu'il est plutôt petit. C'est un bassin versant de 7 hectares, je crois, je ne sais plus. En tout cas, il est marchable, on va dire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller d'une station instrumentée à une autre en parcourant à pied. Donc, dans cet observatoire, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une diversité de capteurs. On a les stations météo en haut du bassin versant, pour étudier la pluie, la neige, les températures, les directions du vent, etc. On a une instrumentation sous les arbres, des espèces de gouttières qui vont récupérer les eaux de pluie qui sont passées sur les feuilles ou sur les épines afin d'étudier en fait la chimie de ces gouttes d'eau. Et donc ça va nous permettre de comprendre si l'arbre va résorber un peu ce problème de pluie acide, s'il y a assez de nutriments, etc. La même chose dans les sols. Et puis aussi on a un gravimètre. Donc ça c'est un instrument beaucoup plus high-tech qui va sonder la quantité d'eau dans la nappe phréatique. Et voilà, on a des instruments qui peuvent être high-tech ou low-tech. On a aussi le River Lab, qui est un instrument que je décris beaucoup, en fait, dans le livre aussi, dans le chapitre sur l'eau, parce qu'il nous offre aussi une façon de regarder l'eau de la rivière assez particulière, parce que c'est un laboratoire, un mini-laboratoire qui est installé directement sur le site. Donc ça, c'est assez particulier. Et qui va étudier la chimie de la rivière en temps réel. Donc ça veut dire qu'il va faire des mesures toutes les 20 ou 30 minutes de tous les éléments chimiques de la rivière. Et donc ce qui est...
J'aimerais justement qu'on parte de ce River Lab, parce que tu en fais vraiment longuement la description. Et j'ai envie de commencer par lire cette note de terrain de l'observatoire du Strandback, puisque les notes de terrain ponctuent ton livre Gaïagraphie. C'était en mars 2020. Tu écris « Paul », donc c'est le scientifique qui t'accompagne. « Paul me fait visiter le River Lab directement sur le terrain ce matin, à l'observatoire de la zone critique du Strandback. Il ouvre la porte d'un laboratoire de chimie miniaturisé et entièrement équipé. Pompe, tube, ordinateur, tout le matériel nécessaire à la réalisation d'analyses géochimiques et là, le chercheur met la machine en marche. Elle crache, gémit et se met à fonctionner. Mais la pression est trop forte et la machine s'étouffe. La rivière est en effet très chargée en sédiments ici. Des particules de matière obstruent le tube qui a été placé dans la rivière pour envoyer l'eau dans le River Lab. La rivière ne se prête pas facilement au monitoring. Après de nouvelles tentatives et en laissant couler le robinet d'eau qui tousse pendant plusieurs minutes, l'écran de mesure passe enfin au vert. Le bruit et l'agitation sont étonnants et contrastent fortement avec le calme qui règne lorsque les scientifiques prélèvent manuellement. L'installation d'un laboratoire entièrement équipé sur le site n'est pas exempte de problèmes techniques.
Oui, merci pour l'extrait. En fait, c'est vrai que j'ai essayé aussi de décrire, pas seulement ce que ça nous permet de voir, toute cette instrumentation, mais aussi comment ça fonctionne et le soin qu'il faut aussi porter aux machines. Le fait d'être des sciences de terrain pose certains problèmes de terrain, en fait. On n'est pas en dehors, on n'est pas dans le laboratoire où tout est aseptisé, finalement. Mais là, on est contraint de faire, en fait, avec ces éléments de nature qui resurgissent, finalement, et qui imposent aussi d'adapter toutes ces procédures qu'on pourrait avoir en laboratoire, mais sur le terrain, elles sont différentes. C'est aussi pour ça que les observatoires ont été mis en place, parce qu'en fait, on ne peut pas avoir les mêmes mesures qu'en laboratoire. Donc c'est important, voilà, de se rendre sur le terrain. Et la particularité de ce River Lab, c'est que ça nous offre une façon de regarder la rivière aussi qui n'est plus du coup seulement de l'eau, donc une seule rivière qui coule, voilà, avec de l'eau telle qu'on peut la dessiner sur une carte aussi, mais un ensemble de flux divers, une rivière. Donc il y a une rivière de calcium, une rivière de potassium, une rivière de sulfure. Enfin, il y a un tas, en fait, de rivières qui ont des comportements différents. Et donc l'exploration aussi de ces comportements qui va faire en sorte que, voilà, l'entité rivière, elle n'est pas unique, mais elle est multiple. Et ça vaut pour tous les fleuves, en fait, pour toutes les rivières, pour tous les fleuves. Donc le fait de se dire ça, c'est ensuite comment on va pouvoir représenter ces flux, ce cycle entier, en fait, aussi, parce que la rivière, elle n'est pas aussi, comment dire, Il y a un très beau livre de Dilip Dakuna, qui est un architecte indien, qui parle aussi de la rivière comme quelque chose qui a été isolé de son cycle entier et qui finalement a été un choix en fait de séparer la terre et l'eau. Alors qu'en fait, voilà, la rivière, elle est inscrite dans tout un cycle des pluies, des transports souterrains. Enfin, il y a des chemins de l'eau en milieu souterrain aussi. C'est quelque chose qui m'avait frappé en interviewant les scientifiques. C'est qu'en fait, il y a des chemins, elle est vieille, enfin, elle a des âges. Elle a un ensemble de caractéristiques qui pourraient aussi le faire penser comme un être vivant. Ou en tout cas, voilà, quelque chose qui n'est pas un objet. Pour prendre un petit peu la situation du début, mais qui a voilà, des comportements, des manières d'être, qui n'est pas uniquement un flux à la surface, mais qui s'infiltre, qui va aussi dégrader les roches et permettre au sol voilà, de se former, qui transporte tout un tas d'éléments. Et donc, dans le livre, il y a aussi des cartes de cycles. Donc l'idée, c'était vraiment de proposer au lecteur la possibilité de comprendre tous les processus qui sont en jeu dans les cycles et de pouvoir les tracer sur un outil, un abac, qui va permettre aussi d'intégrer les temps courts et les temps longs dans l'espace.
Parce que ce que nous apprenons avec les scientifiques que tu as observé, notamment, voilà, tu as été plusieurs années avec eux en observation, pour pouvoir après faire des cartes, pour pouvoir faire après des plans, et nous en parlerons tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on continue là ce que tu as appris et ce que nous apprenons grâce à toi de ces scientifiques. Cette phrase, elle est quand même déterminante. Au lieu d'une simple rivière d'eau, le scientifique de la zone critique observe en réalité de nombreuses rivières d'éléments. Et c'est ça aussi que tu vas essayer après de représenter sur des cartes particulières, mais déjà comprendre que ce que nous concevons comme ça de manière évidente, bah oui, c'est un fleuve qui coule, c'est une rivière qui coule, certes, mais tout ça ne nous fait pas comprendre ce qu'est un cycle de l'eau et ne fait pas comprendre aussi tous les éléments qui vont avec cette eau, et des éléments qui sont déterminants, puisque ce sont des éléments qui font partie d'un cycle, et c'est ça que cherchent à faire comprendre ces scientifiques, et pour cela, ils ont besoin de leurs instruments, et des instruments notamment qu'ils fabriquent exprès pour, c'est-à-dire des instruments qui n'existaient pas avant qu'il y ait ce type de science, ce sont des instruments qu'ils ont bidouillés, qu'ils ont créés pour chercher ce type d'éléments. Parce que, comment dire, il y a un retournement, c'est pas l'instrument qui a fait ce type de science, c'est ce type de science qui a créé des instruments. Bon, c'est quelque chose d'assez régulier en science, mais néanmoins, pour bien faire comprendre la nouveauté de la des sciences de la zone critique, c'est qu'ils ont eu besoin d'autres instruments pour comprendre ce qui se passait, notamment avec les cycles de l'eau.
Oui, en effet. Et puis, ils ont aussi, du coup, mis en place des programmes de recherche pour créer ces instruments qui souvent partent de quelque chose d'existant, mais qui ensuite le transforment pour vraiment l'adapter à leur sujet d'étude. Je prends dans le livre l'exemple des géophones. En fait, donc là, c'est pas pour l'eau, mais c'est pour étudier le sol, même si, bon, c'est très lié. Hein. Dans le livre, il y a des chapitres terre, eau, air, mais bon, les choses, bien sûr, s'entremêlent. On est dans la zone critique, donc c'est des flux ascendants, descendants, et tout ça se mélange. Mais du coup, cet instrument, il est assez particulier, parce qu'il vient, en fait, de l'exploration pétrolière, mais qui explore vraiment les profondeurs. Et là, le but, c'est pas de chercher le pétrole à des profondeurs vraiment très, très grandes, mais de comprendre la composition de ce qu'ils appellent l'approche profondeur ou l'approche surface. Enfin, c'est des near death, comme disent en anglais. Et donc, c'est quelque chose qui échappe un peu à la compréhension, parce que c'est pas tout à fait à la surface et c'est pas tout à fait dans les grandes profondeurs, et pourtant on n'y a pas accès. Donc c'est aussi de rendre visible quelque chose qui est compliqué, aussi parce que c'est là où tout s'altère. Et quand ça s'altère, c'est qu'il y a plusieurs matériaux qui sont dans cette zone, qui sont compliqués à cartographier, à comprendre. Il y a tout un tas voilà, d'éléments. Donc, c'est des choses qui vont embêter quelque part les compagnies pétrolières, parce qu'on passe au-dessous en fait, mais qui est important parce que c'est là où se créent les sols véritablement. Et donc ces géophones, ils sont implantés, donc on les met en place en fait. Pour la petite anecdote, donc j'étais en Guadeloupe faire une campagne de mesure de ces instruments et c'était assez compliqué parce qu'en fait le matériel est très très lourd, il y en a beaucoup. La jungle, ben, elle est quelquefois impénétrable. Et le but, c'est pas d'aller défricher pour mettre en place ces instruments, comme le feraient les compagnies pétrolières d'ailleurs avec des camions, mais plutôt voilà, de s'infiltrer et puis d'essayer d'aller les placer. Ensuite, ces géophones, ils sont reliés entre eux. Un coup de marteau, en fait, est produit sur le sol. Ça fait des ondes. Les géophones les enregistrent. Et c'est la propagation, c'est les types d'ondes qui vont permettre aux scientifiques de reconstituer la nature du sol en dessous. Donc c'est voilà, c'est aussi une autre façon d'aller sur le terrain, de se confronter aussi au paysage et à sa densité. En Guadeloupe, on a aussi des sols qui sont très épais parce que le recyclage va très vite à cause des conditions climatiques, et donc on a aussi pas mal de trous dans les sols, les racines qui sortent. Donc on est un peu empêtré dans tout ce paysage qui nous englobe. Il y a aussi une forte taux d'humidité. Donc voilà, j'ai essayé aussi dans le livre de pouvoir donner une impression, une sensation de tous ces terrains. Donc pas uniquement d'écrire peut-être l'instrument ou faire des cartes à partir de ces instruments, mais aussi donner une idée des ambiances qu'on peut traverser. Dans ces observatoires.
Parce qu'on a bien affaire à un carnet d'exploration. Et ça va nous permettre, bah, petit à petit, avec ce que tu nous dis, Alexandra, de mieux saisir ce qu'est cette zone critique. En profondeur, les scientifiques considèrent que la zone critique est compliquée. Et c'est parce qu'elle est compliquée qu'ils l'appellent critique. Zone critique est un terme au départ qui est purement scientifique, de science dure, de science naturelle. C'est pour critique, pour dire où c'est compliqué et là va falloir qu'on cherche, va falloir qu'on monte des protocoles, qu'on monte des instruments, qu'on monte des institutions pour comprendre la zone compliquée. En fait, on pourrait l'appeler comme ça. Et ensuite, les sciences humaines, notamment Bruno Latour, sont arrivés pour dire « Ah, c'est critique peut-être aussi parce que tout ça, c'est lié à notre... » On en a besoin, en tout cas, pour notre problématique de catastrophe bioclimatique et d'anthropocène. Donc, j'y reviens. Cette zone critique est compliquée, car la zone critique, en profondeur, se situe entre deux disciplines. Les pédologues observent les 3 premiers mètres, et les géologues, notamment ceux qui font de l'industrie pétrolière, l'étudient à des milliers de mètres de profondeur. La zone critique est au milieu. Sa profondeur est déterminée par la présence de l'eau dans le milieu souterrain qui le modifie, le traverse, l'altère. C'est pour ça que je voulais qu'on commence l'entretien par l'eau, notamment pour mieux faire comprendre cette histoire de sol et de zone critique. Et donc, les scientifiques ne cessent de se poser cette question, les scientifiques des zones critiques, quelle définition du sol émerge, mais à travers ces instruments? C'est-à-dire que l'instrument, c'est l'outil de médiation par excellence afin de faire comprendre ce qu'est cette zone critique.
Oui, tout à fait. Les instruments ou les capteurs, j'aime bien le mot anglais en fait parce que c'est des sensors. Et c'est vraiment des senseurs, enfin, il n'y a pas de terme en français, mais c'est des extensions de nos sens, alors, de sensibilité, extensions de notre capacité aussi à, voilà, à comprendre de quoi est constitué notre milieu. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de décrire en fait ce point de vue des capteurs. Donc, on n'a plus un seul point de vue. Sur un sol, mais on a une multiplicité de points de vue. On n'a plus un seul point de vue sur la zone critique, mais une multiplicité. Et je pense que c'est ça aussi ce qui fait la spécificité de ces sciences et ce en quoi c'est intéressant aussi pour nous et même à cartographier, c'est qu'en fait, on a cette diversité de points de vue qui en fait, c'est, qu'on va essayer de mettre ensemble pour constituer les cartes. Donc on n'a pas, c'est pas le point de vue uniquement humain, central ou centré, qui va regarder du dessus, mais c'est à partir de le point de vue du géophone, le point de vue du River Lab, le point de vue de la station météo, le point de vue des gouttières sous un arbre, le point de vue du carottage, qu'on va essayer de reconstituer cette zone critique.
Maintenant, nous allons pouvoir aborder ton rôle pour qu'on comprenne pourquoi une architecte a été embarquée dans tout ce processus. Si tu as fait toute cette démarche et d'observer les scientifiques qui t'ont accompagné, c'est parce que ils trouvaient qu'il y avait nécessité d'avoir une autre représentation de cette zone critique. Parce que les outils, notamment de représentation en deux dimensions, c'est-à-dire les outils cartographiques, les plans, étaient beaucoup trop modernes, étaient dans une science antérieure où le concept même de zone critique, qui a plutôt émergé dans les années 2000-2010, n'existait pas. Et donc, c'est-à-dire que cette zone c'était une zone qui n'avait pas de science, en fait, c'était une zone qui n'avait pas de scientifique. Certains scientifiques s'occupaient du sol, mais des trois premiers mètres. D'autres, les géologues, étaient dans les profondeurs. Mais cette zone intermédiaire, cette zone en fait de l'eau, du cycle de l'eau, tant qu'il passe de l'eau, n'avait pas ces scientifiques et n'avait pas ces instruments. C'est cela qu'il faut bien comprendre de ce qu'est cette zone critique dès qu'on est dans les sols et de mieux comprendre nos sols. Et leur problème, c'était la représentation notamment. C'est aussi...
Et suite de la réponse, juste après une petite pause musicale, Karl, qu'allons-nous écouter ?
Le disque est trop loin, tant pis.
Le disque est loin. Alors, ça, c'est une bonne excuse. Et je pense qu'à la radio, personne ne l'a encore entendu. Le disque est trop loin.
Il est là maintenant, mais la pochette est trop belle.
Ah ouais, une belle pochette.
African Sciences, on avait déjà diffusé un extrait d'un ancien album. Celui-ci est plus récent, il date de 2021. C'est toujours un peu la même recette, quoi. Afrofuturisme, musique électronique, électro, techno. Et on va écouter de la techno pour toi.
Ah.
Oh, c'est pas souvent. Qu'est-ce qu'il est mignon. Eh ben voilà, c'est maintenant, le morceau s'appelle Belfast, il me semble, ce qui est curieux par rapport à ses habitudes de titre, on va dire, et je pense qu'il a un bon souvenir avec l'Europe. Allez !
Toujours l'émission du Fictionnaire, Radio Campus Orléans.
Thank you.
reviens sur ton geste vraiment initial, qui peut être vu d'un côté, d'un point de vue révolutionnaire dans la manière de représenter, c'est nous ne sommes plus, plutôt que la planète soit vue de l'extérieur, plutôt qu'un plan, qu'une carte représente la planète d'un point de vue extérieur, donc cette vision planétaire, le nouveau cadre serait de fournir une vue de l'intérieur. Et c'est ça qui change tout, c'est avoir cette vue de l'intérieur. Et cette vue de l'intérieur, c'est la seule manière de représenter ce type de cycle.
Oui, alors effectivement, donc, on retombe sur la citation aussi du début, les cartes de l'intérieur, donc elles sont nourries par l'enquête. Donc on est à l'intérieur de ces sciences, on essaie de récolter tout ce qu'on peut comprendre. Et donc la carte traduit aussi cet effet d'enclosure, enfin de contrainte qu'on habite sur une seule terre en fait, même si il y a des cartes qui sont vraiment faites à partir des observatoires et d'autres cartes qui sont des cycles terrestres globaux, mais peut-être qu'on y reviendra. Donc il y a deux façons de pouvoir faire ces cartes de l'intérieur. Il y a les cartes qui sont faites à partir des capteurs que j'ai décrit tout à l'heure, donc comment on traduit spatialement les différents points de vue des capteurs, que ce soit micro ou macro, parce qu'il y a des capteurs qui nous informent sur des entités très très petites, donc on va les mettre un peu plus grosses à l'échelle de la carte, et puis d'autres qui nous informent sur des phénomènes globaux, en fait, comme la circulation des particules atmosphériques. Donc comment on arrive à mettre ensemble tout ça, parce qu'en fait c'est ça qui crée la zone critique, qui crée notre milieu. Donc il y a ces types de cartes de l'intérieur, donc de l'intérieur des capteurs, et puis il y a les autres cartes de l'intérieur des cycles biogéochimiques, en essayant de montrer en fait comment nous nous situons aussi dans ces cycles biogéochimiques et comment les activités peuvent les perturber ou les faire bifurquer ou bien créer de nouveaux en fait. Donc il y a ces cartes effectivement des cycles où on a un abac, c'est un espèce d'outil de mesure de façon à tracer le cycle à partir de ces différents processus. Donc on part aussi de l'atmosphère au milieu, et puis plus on va vers l'extérieur, plus on va vers les roches. Mais on assigne à cela une dimension temporelle. Donc on a le cercle qui est découpé en cadrans, et donc chaque cadran va nous donner une unité de temps. Donc ça va de la minute au million d'années. Puisqu'on est un processus, il peut être très rapide, il peut être très long, et donc on va essayer de cartographier cela en fait, si c'est plus long, si c'est plus court, mais aussi si c'est plus rapide ou bien si c'est plus lent, parce qu'il y a des processus qui prennent très très longtemps à se mettre en place, et par exemple les activités humaines vont pouvoir aussi les accélérer. Finalement, c'est le cas pour le cycle du carbone, où on va puiser en profondeur, donc sur du carbone qui a été enfoui pendant très 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 longtemps dans les couches profondes de la Terre. On va le respirer très vite, on va le ramener à la surface très très rapidement. Donc l'idée, c'est de pouvoir montrer ça sur une carte, pouvoir montrer ce flux qui est amené dans l'atmosphère et qui perturbe en fait la stabilité de ce cycle, puisqu'on ne peut pas absorber le carbone qui va être, on parle de respiration, quelque part on essaye aussi d'avoir un langage qui nous permet de nous rattacher aussi à des processus. Enfin, l'idée du livre, c'était aussi de simplifier un petit peu ou de traduire ce langage scientifique en essayant de l'expliciter et de le. Voilà.
On comprend, Alexandra, que ce sont des cartes qui sont très loin d'une représentation de la nature telle qu'on pouvait l'imaginer avant. On n'est plus dans ce type de représentation. Il y a dedans l'humain et ses activités. En ce sens, ce sont pleinement les nouvelles cartes de l'Anthropocène, c'est-à-dire la Terre, la planète, la zone critique, avec toutes les activités humaines qui permettent de mieux saisir comment les activités humaines et peut-être les moindres des activités humaines ou les plus grandes ou plus réduites ont forcément un impact sur ces différents cycles. Et alors on peut comprendre pourquoi une architecte comme toi, qui s'occupe aussi d'aménagement du territoire, a voulu, comme tu le disais en introduction, c'est-à-dire que généralement, celui qui s'occupe d'aménagement du territoire, l'architecte qui fait ce type de travail, il arrive bien après, en fait. Et toi, tu as voulu travailler en amont, c'est-à-dire comprendre tout ce qui allait être absolument utile à notre époque de catastrophe bioclimatique pour peut-être être plus habile pour continuer à avoir une terre habitable, à travailler sur l'habitabilité de la terre en termes d'aménagement du territoire. Et pour cela, il fallait comprendre la zone critique, il fallait comprendre les cycles, et donc il fallait avoir des bonnes représentations. Toi, dans ta pratique d'architecte d'aménagement du territoire, j'imagine que tu utilises désormais ces cartes afin de mieux faire comprendre pour tel ou tel projet d'aménagement quelles en seraient les conséquences et les implications sur les cycles.
Alors c'est là où ça devient compliqué, c'est que en fait sur des projets, sur les territoires sur lesquels on intervient, il n'y a pas forcément de données ou de mesures ou de capteurs qui nous permettraient de pouvoir effectuer ces cartes des cycles. Donc là, on atteint un petit peu la limite de l'exercice. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Enfin, si, ça l'est, parce que finalement, on connaît très peu le milieu dans lequel on évolue. Et quand on n'a pas de capteur, on peut pas arriver, enfin, pas accéder à cette compréhension fine qui est permise dans les observatoires. Par contre, on peut essayer de faire des comparaisons avec certains observatoires dans certaines régions, avec les situations qu'on peut rencontrer dans d'autres projets. Donc c'est là aussi qu'on va pouvoir intervenir. Ensuite, c'est vrai que ces cartes, elles sont aussi nécessaires parce que, voilà, en architecture ou en aménagement du territoire, on utilise toujours des cartes. Même les maîtrises d'ouvrage ou bien les élus, ils sont habitués à lire des cartes. Donc, on a aussi ce besoin de fabriquer ces représentations pour pouvoir communiquer le projet, enfin faire le projet. Donc, c'est pas uniquement effectivement de la représentation, mais aussi des cartes qui pourraient aussi donner des actions. Donc il y a une idée aussi performative de la carte ou bien une carte objet frontière. On utilise aussi ce terme pour essayer de faire en sorte qu'on a un objet à partir duquel plusieurs disciplines ou plusieurs pratiques vont pouvoir discuter ensemble autour de cet objet. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de développer. Et puis récemment, on a un projet actuel qui est à Ris-Orangis, en Ile-de-France, et qui vise à créer des cartes de la zone critique de leur territoire pour intégrer ces cartes, mais aussi cette approche, dans les règlements d'urbanisme. C'est le PLU, Plan Local d'Urbanisme, qui est d'ailleurs nommé « Habiter la Terre ». Donc après aussi une longue conversation avec Bruno Latour, puisque c'est sur ce site qu'on avait aussi effectué les ateliers Où atterrir. Et donc c'était une des doléances pouvoir intégrer cette zone critique dans leur aménagement. Donc là, on en est vraiment au début. Donc on va bien sûr utiliser les cartes qui sont décrites dans le livre, mais je peux pas vous en dire plus parce que voilà, le projet est vraiment au début, mais c'est un espoir quand même aussi. Ça ouvre des perspectives, je pense. Mais il y a tout à faire.
De ce que tu nous dis, Alexandra, c'est peut-être quelque chose qui va nous faire comprendre ce concept de cosmogramme. Parce que peut-être que par le concept de cosmogramme, j'aimerais que tu puisses nous en parler et les déplier, ça donnerait l'idée performative de ce type de carte et de l'ambition qui est poursuivie avec.
Alors, j'emprunte la notion de cosmogramme à John Tresh, qui est historien des sciences, et puis qui a été reprise aussi par Frédéric Aitouati. Donc, voilà, je m'appuie un peu sur leur définition, qui est de cosmogramme, c'est pour faire simple, je l'ai décrit un peu plus dans le livre, mais c'est un objet ou une carte qui permet de rendre compte d'un cosmos particulier, d'un collectif ou d'une société, ça dépend. Et donc c'est un objet matériel qui rend compte d'une certaine vision du monde, et il est partagé. Je pense que cette notion aussi est assez importante, ce fait de partager, ça rejoint l'objet frontière, c'est qu'il va être discuté, il va être débattu peut-être pour essayer d'avoir une forme stabilisée et ensuite pouvoir montrer les relations qu'on peut avoir avec entre les humains, avec les éléments naturels ou bien avec des fantômes. Enfin, dans notre cas, c'est pas le cas, mais voilà, le cosmogramme va nous permettre d'entrer en relation et de montrer les types de relations qui se créent. Et donc voilà, on essaye finalement d'actualiser notre cosmogramme, j'ai l'impression, avec ces cartes de la zone critique, puisque j'ai l'impression aussi que ces sciences de la zone critique nous demandent d'entrer en relation de façon différente avec ces éléments de nature, qui ont, en fait, comme on a essayé de décrire, des comportements, donc des actions, des agentivités, qui sont pas, voilà, sont pas simplement un décor. Et je pense que l'idée de ce livre, c'était aussi de démontrer ça. C'était c'est bien sûr quelque chose qui a beaucoup été discuté. On est presque tous d'accord pour dire que le paysage n'est pas un décor. On est tous d'accord peut-être dans les sciences humaines ou les humanités. Mais à l'extérieur, c'est encore assez controversé. Enfin, en tout cas, il faut apporter du grain à moudre finalement à cela. Et donc le cosmogramme est assez intéressant, de cette notion, voilà, de dire qu'on peut être en relation différente avec des éléments de nature qui peuvent nous échapper, qui peuvent être instables, qui peuvent avoir une façon de se comporter, des trajectoires particulières. J'ai l'impression que tout le travail des scientifiques vise à suivre ces trajectoires, en fait, dans la zone critique. Voilà comment un grain d'argile ou un grain de sable va transiter et se créer dans la zone critique, ou se transformer, puisque en chimie, on est sur des transformations, se métamorphoser, se subduquer. Enfin, il y a tout un vocabulaire aussi qui me paraissait fascinant, à moi qui venais juste de l'architecture et qui avait juste quelques... Enfin, voilà, ça ouvre un champ exploratoire aussi assez intéressant. Donc, la notion de cosmogramme permet aussi de pas juste se focaliser sur la notion de carte, qui peut paraître aussi un peu carte géographique, carte des limites ou administrative, c'est connoté quand même. Enfin, on fait des cartes pour faire la guerre, qui sont très actuelles aussi aujourd'hui dans le débat. La géographie revient au premier plan, mais le cosmogramme nous aussi nous invite à repenser notre relation au monde, ou repenser le monde. Alors c'est un gros programme, hein, mais on est tous à même d'y réfléchir aussi, chacun.
Parce que par ce concept de cosmogramme, il me semble que ça permet de mieux rencontrer ce type d'entités. On comprend que ce sont des entités nouvelles, en fait, ce sont des entités scientifiques nouvelles qui n'étaient pas abordées auparavant. C'est les sciences de la zone critique, alors, apparaissent dans les années 90, le terme commence à se former dans les années 2000-2010. Nous avons affaire à des sciences récentes. Bien entendu, ces entités nouvelles, comme tu l'expliques très très bien, elles sont dotées d'agentivité. Ce n'est pas juste un décor, ce n'est pas juste la nature. Ça, ce sont les anciens concepts de la modernité. Et nous avons appris, notamment grâce à Bruno Latour, comment nous défaire de ces anciennes conceptions et de ces anciennes représentations. Et dans cette optique qu'avait aussi Bruno Latour d'élargir le cercle des non-humains, d'agrandir la grande famille des non-humains, eh bien là, avec les scientifiques de la zone critique, on comprend qu'il faut aussi être accueillant et accueillir
ces nouvelles entités explorées par ces scientifiques grâce à leurs instruments qui sont dotés d'une, qui nous dotent d'une nouvelle sensibilité envers ces nouvelles entités. Et donc, comment rencontrer ces nouvelles entités, parce que c'est de cela dont il va s'agir en fait, les accueillir intellectuellement, les accueillir par notre sensibilité, donc en faire de la rencontre. Il me semble que le concept de cosmogramme est bien adapté pour nous faire comprendre cela, et là effectivement les anthropologues qui travaillent beaucoup sur ce type de conception, d'effectuer des rencontres avec d'autres populations, mais aussi je pense à l'anthropologue
Emmanuel Cette question Grimaud, est insoutenable, mais c'est même
les fantômes. le gars s'épanche. Oui, mais c'est pas possible, c'est inadmissible.
Mais qui sait, virez-moi ça.
Mais quel bavard.
C'est pas fini. Hein.
Mais non. Mais en fait, c'est pas une question, quoi.
De te poser la question.
Tu racontes ta vie. Ouais, c'est ça.
Toi, tu vas chez les gens pour faire des interviews. Tu racontes ta vie.
C'est ça.
Ce carnet d'exploration.
Et ça se termine pas, quoi.
Comment ça se passe, cette manière de rencontrer.
Pas de dernier morceau. Tant pis.
Si, suspense, ça sera dès demain sur le site de l'émission du fictionnaire. Vous trouverez maintenant quasi 300 interviews. Vous entendrez Alexandra Arène au complet. On rigole, mais vraiment, ce livre Gaïa Graphie est un livre vraiment très, 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 très important. Mais on entend la voix derrière.
Pour toi, quoi.
Abominable.
Par rapport à ça,
baisse ma voix de derrière. Ah. Bon, Gaïa Graphie d'Alexandra Arène, vraiment, c'est un grand livre en fait. C'est un livre, je trouve, qui fait vraiment date. Son carnet d'exploration de la zone critique. S'il y a bien vraiment un livre important, je trouve, à lire à ces derniers temps, c'est celui-ci, Gaïa Graphie, paru aux éditions B42 avec Alexandra Arène. On termine par un morceau, bien entendu, une jolie pochette grisée.
Et voilà, et ça juge.
Mais j'aime bien les pochettes que t'as, et le morceau que t'as passé tout à l'heure était vraiment fantastique.
Bon, bah là tu vas moins aimer, je te le dis tout de suite. C'est un morceau un peu noise expérimental pour finir. Hein, il est court, donc ça va aller vite.
Peu importe qu'on perde les auditeurs. Après, c'est Jean-Marc, c'est de la bonne.
Voilà, tenez jusqu'à Jean-Marc, pitié, c'est important. Un groupe qu'on avait déjà diffusé qui s'appelle Atélé-Ciné, avec notamment Sacha Gray à l'intérieur. Et c'est elle qu'on entend, ainsi que son compagnon musicien dont je n'ai plus le nom, je suis désolé. Et puis bah voilà, vous allez voir, c'est une petite pièce où on sample les voix et puis on fait du rythme avec les voix. C'est bizarre, ça fait peur, éloignez les enfants. Merci, au revoir.
Émission du Fictionnaire s'achève ainsi. Radio Campus Orléans, juste après, t'en veux, c'est de la bonne. Ah, l'ami Jean-Marc.